À l'occasion du 50e anniversaire de la création du pays Israël, nous recevons cette semaine M. Maurice Cohen, écrivain et responsable de l'Association des amitiés juives catholiques au Québec, au Canada.
Alors, c'était honnête, je pense, dans ma démarche cette semaine, de recevoir sur l'émission un juif qui, lui, va nous expliquer le texte précis, l'origine du texte de la Bible. Bonjour, Maurice Cohen. Bienvenue sur notre émission. Maurice Cohen est écrivain d'un livre qui a fait sensation. Je vous en montre ici la partie anglophone et la traduction. C'est Le destin de l'homme dans la création. Ce livre, d'ailleurs, vous a mérité un prix.
Oui, il a remporté un award qui m'a été accordé par le Congrès canadien juif en mars 1978. Je l'ai écrit en français au début. Il est incomplet en français, mais en anglais, il est complet. Je lui ai ajouté un 11e chapitre et le Congrès juif canadien l'a choisi parmi 12 ou 13 livres et m'a accordé un prix, une récompense, un award.
Le destin de l'homme dans la
Dans la
création. Vous avez vu un peu l'introduction que je faisais à nos gens qui,
C'est
la
ça.
semaine dernière, entendaient parler de soucoupe volante, d'extraterrestres et de Dieu. Mais on parlait tout le temps des textes de la Bible. On essayait d'interpréter certains textes de la Bible. Mais cette Bible a été traduite. Quand on la lit en français, c'est vrai.
Pour vous parler de la traduction de la Bible, je pense que vous aviez raison de dire que traduire, c'est trahir. C'est vrai. La traduction de la Bible, la première traduction de la Bible, c'est la traduction des Septante. Elle date de quelques 2 siècles et demi avant Jésus de Nazareth, c'est-à-dire plus de 22 siècles. Et on l'appelle la traduction des Septante parce que ce sont 70 rabbins qui l'ont traduite.
En
Ce
quelle
sont,
langue?
attendez, ce sont des rabbins qui étaient hellénisants, c'est-à-dire qui parlaient un peu le grec. L'histoire est assez longue, mais je vais vous la raconter en quelques mots. C'était un empereur qui s'appelait Ptolémée Philadelphe. C'était un roi grec qui aimait les arts et la culture. Et un jour, il descend dans sa bibliothèque, il demande au bibliothécaire, est-ce que nous avons tous les livres intéressants du monde? Il lui a dit, oui, majesté, mais il nous manque un. Il dit, lequel? Il dit, c'est le livre des Juifs, la Bible. Mais personne ne sait lire cette langue, il n'y a que les Juifs eux-mêmes. Et ce n'est pas possible de l'avoir, ils ne veulent pas la donner. Alors le roi, ce Ptolémée, qui était vraiment un amant des arts, a écrit une longue lettre au grand prêtre de Jérusalem en lui demandant qu'il ait l'amabilité de lui envoyer une copie de cette Bible et avec des traducteurs. Et regardez un petit peu le hasard. C'est dans la ville de Pharos, en Égypte. Pharos en grec veut dire phare, les phares qui illuminent. Cette traduction a quand même aidé à la connaissance de Dieu, puisque de cette traduction des Septante sont sorties toutes les autres traductions des langues, ce qui fait que la loi de Dieu qui a été donnée aux enfants d'Israël exclusivement a pu être diffusée dans le monde entier chez toutes les nations, bien qu'elle était mal traduite, car je dois ouvrir une parenthèse et vous dire qu'elle a été mal traduite, parce que les rabbins connaissaient bien l'hébreu, mais connaissaient mal le grec. Parce qu'il n'y avait pas d'université à l'époque. Ils ont appris le grec en parlant avec X, Y et Z. Alors voilà pourquoi la traduction est mauvaise. Évidemment, le Vatican II avait promis qu'il ferait traduire la Bible comme il le faut. Ben, il y a déjà plus de 20 ans, je crois, Vatican II, je ne sais pas exactement, 15 ans, mais ça n'a pas été fait.
Mais vous qui parlez bien et à la fois l'hébreu et à la fois le français, est-ce que vous savez s'il existe des bonnes traductions de la Bible?
Je peux vous dire qu'elle est mal traduite.
On ne peut pas trouver une très bonne
Ah, il y en
traduction
a, il y en a.
française.
En France, on en trouve, fait par des rabbins qui sont francophones à 100% et qui sont honnêtes avec eux-mêmes. Mais je vais même vous dire ceci, que le jour où la Bible sera traduite comme il le faut, il n'y aura plus de discussion entre les chrétiens et les juifs, ça sera des frères. Parce que les uns et les autres comprendront que personne n'a tort et personne n'a raison. Comprenez que les juifs, en suivant leur religion, ils ne font qu'écouter la voix de Dieu. Et que les chrétiens, en suivant leur religion, ils écoutent quelqu'un en qui ils ont confiance. Mais la Bible s'adresse au peuple d'Israël. Elle s'adresse au monde entier, si vous voulez. Mais le peuple d'Israël a été pris comme l'enfant premier-né. Un peu comme un père qui veut parler à ses enfants, mais il ne peut pas parler à 12 ou 13 enfants, c'est déjà. Il choisit l'aîné. plus intelligent, le plus vieux. Et il lui dit, viens mon fils. Mais en parlant à l'aîné, il sait très bien que ce fils aîné va donner des instructions à ses jeunes frères. Mais le père, pour parler sérieux, il parle à l'aîné. C'est ainsi que chaque fois dans la Bible, et Dieu dit à Moïse de dire au peuple d'Israël, et tout est en Israël.
D'ailleurs, de toute façon, la culture chrétienne, judéo-chrétienne, justement, c'est une relation étroite, parce que les chrétiens se basent sur les textes de Moïse. On entend parler d'Abraham chez les juifs, on entend parler d'Abraham chez les chrétiens. C'est Moïse, ça. Adam et Ève, ce sont tous la même source d'inspiration, si on veut.
Personnellement, je peux vous dire, il ne peut pas en être autrement. Jésus de Nazareth a vécu en Israël, est né en Israël. Je peux même vous dire que depuis le linge de sa circoncision jusqu'au linceul de son décès quand il a quitté ce monde, il n'a jamais manqué de respecter le plus petit des commandements de Dieu. Je pense. Personnellement, je le pense. Alors, ce qui fait qu'il ne peut pas en être autrement. Actuellement, la vérité se fait. Il y a des siècles, il y avait des gens qui disaient « Oh, c'est impossible, je n'étais pas juste ça. » Mais qu'on le veuille ou pas, il est né au milieu des enfants d'Israël, il a suivi la religion d'Israël, il a tout fait, il a observé et accompli tous les commandements.
Alors qu'on n'oublie pas que lorsqu'on parle de cet enseignement hébreu très ancien, on rejoint tout près de la moitié de la population de la planète Terre.
Ah, oui.
Vous avez tout le côté chrétien, judéo-chrétien, le côté juif, le côté même de l'islam, parce que l'islam est en relation aussi avec les données de base de la Bible.
Le livre de l'islam qui est le Coran parle beaucoup de Banu Israël, les enfants d'Israël. Ça se répète des dizaines de fois.
Donc, pour vous, Maurice Cohen, Dieu, qui est-il?
Ah, c'est l'Esprit suprême qui gouverne le monde, qui a créé le ciel et la terre, et qui gouverne le monde, qui sonde les cœurs, qui connaît vos pensées et les miennes. Vous savez, le monde n'est pas entre les mains du hasard. Il est entre les mains de Dieu. Exactement comme les lois qui régissent les corps célestes. Vous savez, le soleil, la lune, ils n'ont jamais une seconde de retard. Jamais. Et pourtant, ils font des milliards et des milliards de kilomètres. Regardez la Terre, par exemple, autour du soleil. Non seulement la Terre fait un tour sur elle-même en 24 heures, mais en plus de faire le tour sur elle-même, elle tourne autour du soleil. Si vous faites le calcul, étant donné qu'il y a le rayon de 150 millions de kilomètres entre le soleil et la Terre, pour faire tout le tour, ça fait 300 millions de kilomètres multiplié par 3, 14, 16, ça fait plus d'un milliard de kilomètres dans l'année, tout en tournant sur elle-même, elle fait plus d'un milliard en tournant comme ça. Et vous ne bougez pas. Alors ce sont des corps célestes qui sont régis par des lois absolues que Dieu avait mis en place. Alors ça vous donne la puissance de Dieu, parce que pour connaître la grandeur de Dieu, il faut regarder ses œuvres. Il faut voir l'océan, les vagues de l'océan, voir le vent quand il souffle, voir les hautes montagnes. Et de là, on devine la grandeur de Dieu. Mais on ne peut pas se le représenter. Chez nous, Dieu n'est pas représenté, ni par l'image, ni par statue, rien.
Il n'est pas nommé non plus, c'est l'innommable.
Innommable.
Son nom est sacré.
Son nom est ineffable. Il n'y a que les initiés qui peuvent le prononcer. Nous ne pouvons le prononcer dans la prière. Mais on ne peut pas le prononcer n'importe où, dans n'importe quel endroit, si par exemple nous avons les mains qui ne sont pas propres ou quelque chose comme ça. C'est très important ça.
Vous savez, la semaine dernière, je disais à nos gens que les extraterrestres, lorsqu'ils rencontrent un être humain et qu'ils demandent, et souvent les êtres humains veulent savoir, mais qui est Dieu, est-ce que vous connaissez Dieu? Et les extraterrestres, aux gens qu'ils ont eu des contacts avec, laissent entendre que Dieu, finalement, c'est tout ça. C'est un grand tout. Ils n'osent pas expliquer que c'est une chose limitée, c'est illimité et c'est tout. Alors, vous rapprochez.
Je me souviens même d'avoir lu quelque chose. C'était George Adamski. C'est un bonhomme qui a écrit deux livres très importants. Je les avais lus il y a à peu près 15 ou 20 ans. Et ça m'avait marqué parce que je me souviens qu'il raconte du moins. C'est un bonhomme qui avait été pris par un charlatan par la moitié des Américains et puis par un ange par l'autre moitié des Américains. Et juste, on m'a parlé que l'Académie française lui a accordé un titre posthume pour les livres qu'il a écrits, parce que c'est vrai ce qu'il a dit. Il dit qu'il était monté dans une soucoupe volante et qu'il est parti dans une planète. Et tout ça reste à voir si c'est vrai ou pas, mais il parle que l'extraterrestre lui a posé, il a posé la question à l'extraterrestre, est-ce que vous avez une religion? Est-ce que vous croyez en Dieu? Il dit, mais c'est notre seule occupation, c'est d'adorer Dieu. L'extraterrestre lui a répondu comme ça. Ça, je me souviens que j'avais lu ça. Ça m'avait fait plaisir. Alors, on voit quand même que c'est des gens qui ont dépassé le stade de l'intelligence que nous possédons. Ils sont supérieurs à nous. Vous voyez? Alors, il a dit ça comme ça à un terrien, un bonhomme qui vivait sur notre planète. Il lui a dit, nous n'avons pas d'autre occupation que celle d'adorer Dieu.
Et le témoignage d'Adamski, je pourrais peut-être rajouter que Georges Adamski, qui a eu son contact au début des années 50 avec les extraterrestres, qui a été amené à bord de soucoupe volante, et on vous en a déjà parlé dans les émissions passées, en vous montrant le côté scientifique, les preuves scientifiques, mais ce type-là a rencontré le pape Jean XXIII. Il a eu sa rencontre avec le pape Jean XXIII, juste avant Vatican II. Et maintenant, Georges Adamski est enterré dans le cimetière de Arlington, aux États-Unis. Et ce cimetière, c'est le cimetière où on met les autorités américaines. John F. Kennedy est enterré là. Et on n'a pas enterré n'importe qui, et Georges Adamski est dans ce cimetière. Il y a donc quelque chose, underground, si on veut, un peu ésotérique, qui va finir par être révélé au grand jour lorsque vraiment on aura vraiment mis, nous, le contact avec la relation avec les extraterrestres. Et les extraterrestres, vous, Maurice Cohen, croyez-vous qu'on en parle dans le texte sacré juif?
Ah oui. Dans le livre de la Genèse, qui est le premier livre de la Bible, en hébreu Bereshit, eh bien, il y a un texte. Je pense que c'est au chapitre 6. On dit que lorsque les hommes ont commencé à croître et à se multiplier, que les fils de la divinité ont vu que les femmes étaient trop belles, les filles que les hommes ont procréées étaient trop belles, et puis ils sont venus choisir celles qui leur plaisaient. Alors il est né de ces unions des Néphilim, c'est-à-dire des gens puissants, des géants. Et la Bible ne donne pas d'autres explications. Alors c'est à partir de ce moment-là que l'Éternel, Dieu, avait décidé que l'homme ne vivrait plus longtemps de 700, 800 et 900 ans, mais que sa vie serait arrêtée à 120 ans. Parce qu'il ne faut pas oublier que Adam a vécu 930 ans et Noé a vécu 950 ans, 20 ans de plus. Alors vous voyez que les hommes vivaient presque, je dirais pas éternellement, mais quand vous vivez 1000 ans, vous approchez de l'éternité. Alors, c'est à ce moment-là, quand l'Éternel Dieu a vu qu'il y avait des excès, il a dit, ah, mon esprit n'animera plus la vie des hommes aussi longtemps. Leur vie s'arrêtera à 120 ans maximum.
Nous, dans notre conception scientifique de l'évolution avec Darwin, on a bien l'impression qu'au départ, on était des singes ici sur la Terre et que graduellement, on est devenu l'être humain.
Ah non, celui qui veut croire qu'il descend du singe, libre à lui de le penser.
Ouais.
Mais personnellement, je pense que je suis une noble créature de Dieu et que c'est Dieu qui m'a créé. Parce que je ne vois pas, si le singe est devenu homme, pourquoi qu'il y a encore des singes? Non. Ça, c'est l'histoire de Darwin, moi. Je l'ai lu une fois, je ne la lirai pas deux, et je ne veux même pas m'attendre à cela.
Bon, quand
nous avons la preuve. J'ai eu la modestie d'écrire un livre, qui est Le destin de l'homme dans la création. C'est un titre qui veut tout dire, mais ce livre n'est pas complet. Mais en tout cas, on peut se le procurer. Je l'ai. Dans ce livre, il y a expliqué d'où vient l'homme. Justement, grâce au jeu des lettres hébraïques. Lorsque Dieu créa le premier homme, il lui a donné le nom d'Adam. Vous savez, M. Glenn, Adam, on l'a toujours traduit par homme, comme un objet commun, comme table, chaise, fauteuil. Mais Adam n'est pas un nom commun, c'est un nom propre. Comme vous vous appelez Glenn et moi je m'appelle Cohen, c'est un nom propre. La preuve, c'est que dans la Bible, au chapitre 5, nous avons une phrase qui dit que le jour où il les créa, il les appela. Adam et Ève, il les appela. Il ne dit pas il l'appela, il les appela tous les deux Adam. C'est un nom propre. Or, les trois lettres hébraïques avec lesquelles on écrit le mot Adam sont significatives, elles sont formidables. Heureusement que vous êtes assis parce qu'elles vont... La première lettre est Aleph, c'est Adam, c'est le nom d'Adam parce qu'il était le premier prototype du monde. Dieu n'a pas voulu enlever son nom.
Et Aleph, c'est la première lettre de
l'alphabet. La première lettre de l'alphabet. Et le Dalet, c'est la quatrième lettre. C'est David. Et le même, c'est la troisième lettre, c'est Mashiach, c'est-à-dire le Messie, le royaume des cieux. Attendez. Mais là où ça se complique, et là où ça étonne tout le monde, où tout le monde se pose des questions, c'est que nous avons la preuve là, que la destinée de toute l'humanité est étroitement liée à la destinée du peuple d'Israël, du peuple juif. Et je vais vous donner la preuve. Adam a été créé par l'Éternel Dieu à la première année, l'année zéro de la création. Dès que le ciel et la terre ont été créés, le sixième jour, l'homme a été créé. C'est-à-dire l'année 1, si vous voulez. David est né en 2854, 28 siècles et demi après la création de l'homme. Si nous ajoutons 2854 autres années, nous trouvons 5708. Savez-vous ce qui est arrivé en cette année-là? C'est pour vous dire que ce n'est pas des hasards. Le monde n'est pas entre les mains du hasard, il est entre les mains de l'Éternel Dieu, béni soit-il. C'est la création de l'État d'Israël. En 1948, le 15 mai, l'État d'Israël a été proclamé. N'est-ce pas? Eh bien, cette année, c'était l'année 5708 du calendrier hébraïque, qui n'est pas nouveau, qui existe depuis 2500 ans. Il a été fait exactement par un Rabbi Akiva qui était en prison sous le gouvernement romain quand Rome occupait la Judée. Alors vous voyez un peu. Donc c'est pas dans le calendrier 5708, l'année 5708 correspond à 1948. Si vous mettez 2854 et 2854, vous avez 5708. Donc la création de l'État d'Israël n'est pas un hasard. Le monde entier devrait savoir que la création de l'État d'Israël en 1948, c'est le prélude d'un événement heureux pour toute l'humanité. Quand arrivera cet événement, nul ne le sait. Aucun être mortel ne peut le dire. Dieu seul le sait, c'est-à-dire la venue du royaume des cieux. Mais d'ailleurs, toutes les conditions requises pour la venue du Mashiach, pour la venue du Messie, pour la venue de ce royaume des cieux sur la terre, toutes les conditions requises sont là. Vous savez, quand le ciel est nuageux, on sait qu'il va pleuvoir. Il n'y a pas de doute. Il est bien nuageux, il faut qu'il pleuve. Il ne va pas pleuvoir peut-être dans une heure, mais il va tomber de la pluie dans 2 heures. Nous avons la cause. Et alors toutes les causes sont longues. Dieu béni soit-il a fait des promesses à son peuple Israël. Si vous ouvrez la Bible avec les prophètes, vous allez voir, je vous emmènerai sur la terre de vos ancêtres sous les ailes des aigles. Bon, mais les ailes des aigles, c'est allégorique. Un aigle ne peut même pas prendre un mouton. Les ailes des aigles, c'est les avions. Je pense que même l'invention de l'aviation a été faite en corrélation et en parallèle avec les promesses de Dieu. Ensuite, le désert fleurira. Prenez l'avion, M. Glenn, et allez-y en Israël. Vous allez manger des fruits, des pommes et des poires du désert de Beersheba. Moi, je l'ai fait. Vous voyez? Des jeunes de toutes les parties du monde, vous viendrez sur la terre que je vous ai donné, sur la terre de vos ancêtres. De 130 ou 140 pays, on est parti en Israël depuis plus de 40 ans. À cheval, à pied, en bicyclette, en avion, en bateau, partout. Il y a même des gens qui sont partis à pied. Il y a des gens qui ne sont jamais montés sur un âne, sont montés sur des Boeing modernes et sont partis. Si vous ne trouvez pas que ce sont les temps messianiques, eh bien, il faut réellement être difficile. Il faut être aveugle pour ne pas voir ça. Alors, il manque maintenant, Dieu béni soit-il a donné beaucoup de promesses. Il manque la grande, c'est l'avenue du royaume des cieux. Alors, je vais vous poser une question, M. Glenn, vous allez me répondre par oui ou par non. Si vous allez voir une voyante ou une tireuse de cartes, et elle vous dit, M. Glenn, il va vous arriver ceci, cela, 5 ou 6 événements importants. Si sur les 6 événements, vous voyez 5 qui arrivent, est-ce que vous croirez à la 6e ou pas? Est-ce que vous croirez à la 6e?
J'ai l'impression qu'il y aura plus tellement de doute. Vous savez, M. Cohen, j'aurais une parenthèse à faire à ce moment-ci de l'émission. Nous, l'émission qui s'intitule « L'ésotérisme expérimental » voyage à travers les traditions de tous les peuples.
C'est ça.
Il y a une notion qui nous apparaît évidente maintenant. C'est qu'à l'époque où l'homme a entre ses mains les pouvoirs divins sur la vie et sur la mort, que ça s'appelle retenir les naissances ou l'avortement ou la contraception, que ça s'appelle accepter la mort, vouloir la mort lorsqu'on est sûr d'être pris d'un cancer qui va nous amener à la mort, l'euthanasie. l'homme a un problème de conscience à notre époque, un problème où, en conscience, il se dit que dans certains cas, il faut éviter de donner naissance à des enfants qui vont devenir infirmes ou alors une surpopulation. En conscience, accepter l'euthanasie lorsqu'on sait que dans un mois, on va mourir inévitablement dans des souffrances atroces qu'on ne laissera même pas à un cheval. On le finirait. Et alors donc, en conscience, l'être humain est pris en main avec des pouvoirs divins. Et à ce moment-là, ou alors l'homme devient Dieu, ou alors Dieu vient expliquer à l'homme comment utiliser ses pouvoirs.
L'homme n'a pas le droit de prendre la vie. Il doit la donner. C'est son devoir de la donner. Il est venu dans ce monde pour croître et multiplier. D'ailleurs, Dieu, béni soit-il, nous a donné un ordre. Croissez, multipliez, remplissez la terre. Je pense que les trois
commandements... Mais il y a temps où il y en a trop.
Oui, mais oui, justement.
Alors, Dieu devra
venir... C'est pour ça que je vous ai dit qu'on est arrivé au bout.
C'est ça.
Les trois commandements, on a cru, on s'est multiplié, et on a rempli la terre. La terre est trop pleine. Oui, elle est trop pleine à votre guise et à la mienne. Mais attention, la terre peut mourir. Il y a 5 milliards d'habitants aujourd'hui sur le globe terrestre. Mais je pense qu'on pourrait être même 25 ou 30 milliards. Dieu béni soit-il, les nourrira. Ça, c'est un problème qui n'a pas dû lui échapper. Vous avez des gars, des détracteurs qui vous disent, mais si nous sommes plusieurs, on ne pourrait pas vivre. Ah, si vous voyez ce qu'il y a comme richesse dans l'océan, non. Ça, c'est un côté que je laisse tranquille. Nous avons le devoir de procréer. Mais nous n'avons pas le droit, le devoir de tuer, ni d'avorter.
Ce peuple juif, qui a quand même servi de barème à toute l'évolution de l'humanité, parce que semble-t-il, Dieu s'en sert pour vérifier, voir comment l'évolution de l'humanité se fait, c'est son point de repère. C'est pour ça que peut-être on l'a appelé le peuple choisi. Ce peuple juif, pourquoi a-t-il été tant persécuté? Pourquoi a-t-il été toujours chez les voisins, et jamais chez eux? Et pourquoi a-t-il été dernièrement avec Hitler?
C'est une bonne question, ça.
Oui.
C'est une très bonne question. Voyez-vous, je n'ai pas... Vous savez que la Bible est un océan de textes. Je ne peux pas vous dire où c'est, mais je vais vous dire la phrase. Dieu béni soit-il a dit au peuple d'Israël, de toutes les familles que j'ai créées sur la terre, c'est-à-dire toutes les nations, c'est à toi seul que je demanderai des comptes. Ce qui veut dire, tout ce que je t'ai appris, tout ce que je t'ai dit, si tu ne l'enseignes pas aux autres nations, tu es la responsable, comme je vous ai dit tout à l'heure pour le fils aîné. Et alors il a dit, c'est à toi que je demanderai des comptes. Quand les autres nations font des grands péchés, c'est Israël qui paye. Il est le bouc émissaire. Et vous me direz, mais alors, c'est pas possible, ça ne colle pas. C'est ça la justice.
Oui, mais je vois aussi d'autres facettes. C'est que lorsque les choses vont bien, c'est le peuple qui va récolter la récompense.
Voilà. Mais justement, Dieu, j'allais continuer.
Oui.
Dieu nous dit justement au peuple d'Israël, c'est dur, ma position envers vous est excessivement dure, mais considérez la fin. Car lui, béni soit-il, il voit la fin dès le commencement. Mais nous avons notre vue qui est limitée. Alors, la récompense est trop grande. Et c'est parce qu'elle est trop grande qu'il faut tant de sacrifices. En tout cas, une chose est certaine, c'est que le peuple d'Israël est considéré, disons, si on peut ouvrir une petite parenthèse, le professeur de l'humanité. C'est peut-être trop gros comme mot, mais c'est ça.
Puisque... Je crois qu'il y a une grande quantité de savants qui sont...
Les prix Nobel.
Les prix Nobel, juifs.
Le pourcentage est, paraît-il, de 15%, le prix Nobel, aux juifs dans le monde. Et pourtant, c'est un peuple qui n'a pas 15 millions d'habitants.
On dit même que dans l'apport culturel et scientifique, le peuple juif y est pour 40% dans l'évolution de l'humanité.
Maintenant, je vais vous ajouter autre chose. Personnellement, je pense que si la force des bras et la force des armes devaient décider de l'existence d'un peuple, il y a longtemps que le peuple d'Israël aurait disparu. Vous êtes d'accord avec moi? Si vraiment ça ne dépendait que des armes, parce que tous les peuples ont voulu anéantir ce peuple, ce qui fait qu'il a l'aide de Dieu. Parce qu'il est écrit, il ne dort ni ne sommeille celui qui te garde, ô Israël. C'est dans l'Exode. Il ne dort ni ne sommeille celui qui te garde, ô Israël. C'est-à-dire celui qui a créé le ciel et la terre. Et c'est pour ça que nous disons, l'essence de l'homme, c'est de craindre Dieu, d'observer ses commandements, de les accomplir. Il n'y a pas autre chose. C'est ça le sens de l'homme. Il est venu dans ce monde pour ça. Heureux l'homme qui observe les commandements de Dieu et qui marche droit dans la voie que Dieu a tracée au peuple d'Israël et aux hommes.
Maintenant, je sais que demander à un juif ce qu'il pense de Jésus-Christ.
Oui.
Allons-y avec des gants blancs, c'est-à-dire qu'ici au Québec, le christianisme, le catholicisme plus spécialement, est vraiment entré dans nos veines.
Oui.
Et pour un juif, le Christ, c'est un grand prophète probablement. Mais...
Je vais vous apprendre quelque chose, monsieur. J'ai été président des amitiés judéo-chrétiennes dans la ville de Québec. Et mon ami, mon grand ami, c'est Monseigneur Ernest Lemieux, qui est le bras droit du cardinal Roy. Actuellement ami jusqu'à maintenant, on se téléphone, on s'écrit. Et j'ai eu souvent à traiter de ces histoires qui sont très délicates. Il y a beaucoup de gens qui me posaient des questions, je vous avoue, qui me laissaient abasourdi et puis un peu complexé. Mais j'y répondais à la façon. Jésus de Nazareth, pour nous, c'est un juif comme tous les autres. Ce qu'il a fait pour être condamné à mort, l'histoire exacte, nul ne l'a. C'est pas vrai que quelqu'un vous dise que l'histoire existe dans le Nouveau Testament ou que tel a écrit, c'est pas vrai. Personne n'a assisté. On entendait oui dire, mais une chose est certaine, c'est qu'il a été exécuté par les Romains. Et la peine capitale qu'il a suivie, c'est-à-dire la crucifixion, ça n'était pas la peine de mort des Juifs. Les Juifs, quand ils voulaient tuer quelqu'un, c'est dans la Bible, c'est la lapidation. C'est-à-dire qu'on tuait avec des pierres. Il était interdit de faire autre chose, de couper la tête ou de crucifier, quoi que ce soit. Alors, ce n'est pas... Il a été jugé par un tribunal, je dirais, c'est Ponce Pilate. Ponce Pilate, évidemment, a joué un rôle complètement idiot. C'était le plus grand comédien du monde, ce Ponce Pilate. Parce que lorsqu'il dit « je m'en lave les mains », il pouvait ne pas s'en laver les mains et la quitter. Il était le maître à Jérusalem. Vous me suivez, M. Glenn ? Ponce Pilate était le maître. Lorsqu'il nous dit « je me lave les mains », c'est cette phrase historique, on dit « je m'en lave les mains », tout le monde la répète. Il pouvait ne pas se laver les mains et dire à la cour qui l'a jugé « non ». Ce bonhomme-là n'est coupable de rien, je la quitte. Il n'y aurait pas eu de contestation. Maintenant, il y a encore autre chose. Dieu le Père, béni soit-il, l'éternel Dieu, n'a rien fait pour arrêter ça. Il n'y a rien fait. Lorsque Jésus est monté sur le il a dit « Eli, Eli, lama azabtani ». Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est connu, c'est les chrétiens qui le disent. Moi, je l'ai lu aussi, vous avez dans le dictionnaire, dans les phrases des Pages Rouges. Alors, c'est très difficile de porter un jugement exact. Une chose est certaine, c'est que Jésus de Nazareth, si beaucoup de Juifs n'en parlent pas, la raison est fort simple, c'est que par sa cause, ils ont eu toutes sortes de malheurs. Durant 2000 ans, vous vous rendez compte ce qu'il y a eu comme persécution. Et on peut dire que toutes les persécutions viennent un peu de ci ou de là. Alors, ça fait qu'ils n'en parlent pas. Mais la réalité est là. C'était un juif comme tous les juifs, qui vivait en Israël, qui portait le nom d'Ishu. Il était à Nazareth. Son père était charpentier. Mais il a été à la synagogue comme tout le monde. J'ai vu dernièrement un film tout récent. Je l'ai vu monter au Sefer Torah. Il a fait la bar mitzvah. Comme tous les enfants à 13 ans, il a lu les choses. Donc, quelle différence y a-t-il? Si par la suite, il y a eu quelque chose que les gens avaient à lui reprocher, ben, je peux vous dire une chose, que actuellement, nul ne sait l'histoire exacte. Et tous ceux qui prétendent savoir quelque chose, c'est du oui-dire ou des suppositions.
Alors, et vous les Juifs, vous attendez le Messie, le véritable Messie.
Oui.
C'est lui qui va amener l'harmonie, le règne de Dieu sur la terre, mais à tous les plans.
Oui.
Pas simplement au plan de l'amour, comme le Christ l'a fait, mais sur le plan matériel, aussi bien que sur le plan spirituel, sur tous les plans. On n'aurait plus de problème.
Pourquoi on n'a pas cru en lui?
Mais, c'est ça, pourquoi, c'est pourquoi vous n'avez pas cru en lui.
C'est encore une très bonne question. Parce que, dans le prophète Isaïe, parce que Dieu nous a dit, comment on reconnaîtra le Messie, le véritable Messie. Vous savez, quand vous voulez analyser quelque chose, vous l'emportez en pharmacie et vous dites ça contient du sel ou ça contient de l'albumine ou c'est cela. Dans les choses, dans la Bible, c'est pareil. Le véritable Messie, quand il viendra, personne ne peut lui faire du mal et personne ne peut le toucher. Est-ce qu'il vient avec la force de son souffle, il anéantira les méchants. Or, voulez-vous me dire, lorsque Jésus, lorsque les soldats romains ont voulu le mettre sur la croix, est-ce qu'il a pu leur faire du mal? Tout le monde le violentait, à tel point que les gens dans le film avaient les larmes aux yeux, tout le monde, même lui. Moi, après tout, c'était mon frère, c'était dans le pays de mes ancêtres, ça se passait, c'est une grande injustice. Mais il n'a rien pu faire. Alors qu'il est dit, avec la force de son souffle, il anéantira les méchants. C'est-à-dire tout celui, c'est pour ça qu'il fera la justice. Parce que la justice, il faut être fort pour la faire. Si vous jugez un pauvre et un riche, il faudrait que vous puissiez dire au riche, t'as tort, et puis toi pauvre, tu as raison. Et ça, il faut être fort pour le faire. Et alors, Dieu béni soit-il, lui donnera les pouvoirs voulus pour faire cette justice, pour régner sur cette terre où il y a la pagaille. Parce qu'actuellement, est-ce que vous vous rendez compte que ça ne va nulle part dans le monde? Il n'y a aucun pays où la paix existe. Aucun gouvernement n'est stable. Aucun gouvernement ne peut... Il y a même des fois un gars qui détourne un avion, mais les gouvernements ne peuvent rien. Ils sont obligés de s'exécuter et de lâcher des otages, des prisonniers, de donner des millions. Où nous allons? Alors c'est la pagaille. Il n'y a plus de justice. Alors Dieu béni soit-il a décidé, je vais m'occuper des affaires humaines. C'est trop, j'ai laissé la terre abandonnée. Parce que la lumière de Dieu s'est retirée de cette planète, étant donné le nombre de péchés qu'il y a eu.
Maintenant, vous savez, Maurice, quand même, nous sommes frères de toute façon spirituellement, puisque même les chrétiens croient dans la parole du Christ qui a quand même dit « Je reviendrai, je reviendrai ». Alors, les chrétiens attendent le Christ qui va revenir en Messie, et les Juifs, vous l'attendez en tant que Messie, mais vraiment le Messie qui viendra amener l'harmonie. Mais viendra-t-il dans sa fameuse Jérusalem céleste?
Je pense que si le Messie vient, il viendra à Jérusalem. Il viendra à Jérusalem. Le Messie, je ne le vois pas venir ailleurs qu'à Jérusalem.
Sur le mont de Sion, on dit dans les textes de Confucius.
Il viendra dans la cité de Jérusalem, à côté du temple, là où était, parce que le troisième temple, c'est qu'il y a eu deux temples détruits. Le premier a été détruit par les Chaldéens en 586 avant Jésus de Nazareth, et le dernier en l'an 86 après. En l'an 86 après, il a été détruit. Non, pardon, en 66.
Il n'a toujours pas été reconstruit.
En l'an 70, vous savez, c'est les chiffres. En l'an 70 après Jésus. Ça fait qu'il y a eu 650 ans entre le premier et le deuxième temple. Mais il n'y a rien maintenant. Il y a les vestiges, il y a le mur des Lamentations, que j'ai visité plusieurs fois. Il y a le mur des Lamentations, c'est l'endroit sacré. C'est là où il y avait le Saint des Saints. C'est là la place la plus sainte, la plus merveilleuse du monde. Mais je pense que si le Messie vient, et que Dieu nous l'envoie le plus tôt, c'est le souhait de toute l'humanité, c'est là-bas qu'il doit venir. Et là, il mettra certainement un terme à toute la discorde qui existe entre l'humanité.
Je sais que les rabbins du monde disent d'ici peut-être 20 ans, le Christ revient. Le Messie, pas le Christ, le Messie revient. Mais alors là, il y a des gens qui vont dire, oui, mais ça fait des siècles qu'ils l'attendent.
Écoutez, oui, mais nul ne le sait. En tout cas, nous avons pour devoir de l'attendre tout le temps. Mais il doit venir et nul ne connaît. Tous ceux qui disent des dates et des prévisions s'aventurent dans des terrains glissants. Il y a seul, Dieu béni soit-il, connaît la date de son arrivée, son envoi. Il y a peut-être d'autres conditions qui doivent être remplies. Nous les connaissons sans les connaître, mais c'est une conversation très aventureuse, parce que qui peut prédire un tel événement?
Ah, Maurice, quand même. On va maintenant faire une courte pause, donner le temps à nos gens de décanter tout ce qu'on s'est dit. Nous allons nous retrouver dans quelques instants, et là, nous allons impliquer le phénomène et les extraterrestres, maintenant à la culture judaïque. La semaine dernière, c'était la culture chrétienne, maintenant la culture judaïque. Et pourquoi parler des extraterrestres, ces êtres qui voyagent avec des soucoupes volantes, pourquoi seraient-ils aussi impliqués dans cette notion qu'on a de Dieu et de toute cette culture très ancienne? Vous connaissez maintenant l'importance que les Juifs apportent à leur peuple, ce peuple choisi de Dieu. On se retrouve dans quelques instants. Avec Maurice Cohen, maintenant nous allons aborder le phénomène extraterrestre, mais très directement, et en relation cette fois avec le texte sacré juif, qui est la Torah. La Torah est quand même très semblable à ce qu'on a dans l'Ancien Testament, nous les chrétiens, dans la Bible. C'est l'enseignement qui remonte jusqu'à Moïse.
C'est ça.
En gros.
C'est en gros, bien que j'ouvre une parenthèse pour dire que c'est un peu mal traduit, c'est tout. Mais celui qui lit le texte en hébreu, bien, ça n'a pas changé d'un iota ni d'une virgule. Tout a été conservé.
Il faudrait peut-être souligner à nos gens à quel point le texte, l'écriture hébraïque est précise. Est à ce point précise, figurez-vous, mesdames, messieurs, que c'est une langue de chiffres. Que chaque lettre est un chiffre, donc que chaque mot, un ensemble de lettres, chaque mot est un nombre, un ensemble de chiffres. Et c'est pour cette raison que des fois dans la Bible, vous voyez des gens qui changent de nom. Abraham devient Abraham. Jacob change de nom à un moment donné. Et on dit, maintenant tu t'appelleras Israël. Il y a beaucoup de changements de nom parce qu'on change la valeur numérique. Vous comprenez à quel point c'est extraordinaire. C'est même, j'allais dire, surhumain que des gens. Et quand on remonte là à 4000 ans, 5000 ans avant Jésus-Christ, avant notre époque, connaître des mots, un vocabulaire aussi précis qui puisse fonctionner à l'aide de chiffres tout le temps, et ces chiffres sont en relation les uns avec les autres. Les mots sont en relation les uns avec les autres. Quand, dès le départ, Adam est mis sur la terre, déjà, il connaît le nom des animaux, il connaît le nom des plantes. Il y a des mots pour chaque chose, parce que chaque chose rentre dans un plan précis. J'espère que je n'ai pas fait d'erreur là, Maurice Cohen.
Bien, écoutez, disons que la Torah, que Dieu a donnée au peuple d'Israël au mont Sinaï par l'intermédiaire de Moïse, c'est les cinq premiers livres de la Bible, que l'on nomme en grec le Pentateuque. Alors il y a le livre de la Genèse, l'Exode, les Nombres, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome. Ce sont les cinq livres. L'ensemble s'appelle le Pentateuque.
C'est donc c'est l'histoire d'Adam jusqu'à Moïse.
Oui, jusqu'à la fin de Moïse, quand Moïse est décédé sur le mont Nebo. Mais là, la Torah, c'est un langage saint. C'est la Shona Kodesh. C'est un texte duquel il ne faut rien enlever et auquel il ne faut rien ajouter. C'est tellement précis, comme vous disiez tout à l'heure, que la moindre lettre est étudiée, analysée et comptée. Il y a par exemple ce qu'on appelle la valeur numérique d'un mot. C'est-à-dire qu'un mot qui s'écrit en trois ou en quatre lettres, on sait que chaque lettre a un chiffrage, a un nombre, on additionne les lettres, ça donne tant. Et ce chiffrage permet parfois de découvrir des choses vraiment inouïes. Je vous ai expliqué tout à l'heure pour Adam, Aleph, Dalet et Mem. Ça fait quelque chose comme le total fait 45. Si nous comprimons 4 et 5, ça fait 9, c'est la valeur de l'homme. Alors que 13, c'est la valeur de Dieu, la valeur du divin.
13 ?
Oui. Non, nous n'avons pas parlé de ça, c'est dans mon livre. Mais vous ne m'aviez pas posé cette question parce que c'est très compliqué. En tout cas, l'alphabet hébraïque se compose de 22 lettres. Se compose de 22 lettres. 9, la valeur humaine, et 13, la valeur divine, ça fait les 22. Et ces 22 lettres constituent le plan de la création du monde. Avant même que le monde soit créé, l'alphabet était préparé devant l'éternel Dieu. Et c'est la raison pour laquelle cet alphabet reste mystérieux, saint, ineffable, et lorsqu'on parle de Kabbale, par exemple, la Kabbale, c'est un petit peu l'interprétation mystique de ces mots hébraïques, de ces lettres hébraïques. C'est l'interprétation mystique et mystérieuse de ces mots.
Il y a 22 lettres et nous avons 22 gènes, les êtres humains qui se reproduisent.
Je n'irai pas jusque-là.
Il y a 22 dénominateurs communs à 360.
Je n'irai pas jusque-là parce que ceci, lorsque j'ignore quelque chose, je ne veux pas l'avancer. Peut-être que vous avez raison, mais je ne veux pas l'avancer parce que je ne savais pas cela. Tout ce que je sais, c'est que l'homme, d'après la Torah, d'après toutes les saintes écritures que nous avons, nous pouvons penser que l'homme est un atome dans le cosmos. Parce que il a. Nous avons 613 commandements dans la Torah. Et ces 613 sont résumés dans les 10 commandements que Moïse a reçus au Mont Sinaï. Parce que si vous additionnez 6, 1 et 3, vous avez 10. C'est-à-dire que c'est les 10 commandements. Mais chaque commandement au Sinaï renferme 40 autres, vous voyez un petit peu. C'est l'extension du commandement. Et c'est expliqué dans la loi écrite et orale, tout ça est expliqué. À travers les siècles, ça s'est expliqué. Ça fait que le juif qui accomplit ses mitzvot, c'est-à-dire ses commandements, qui craint Dieu, qui étudie les saintes écritures, est au courant de tout ça. Et il vit en accord parfait avec la volonté de Dieu. Et évidemment, pour le juif, il ne se pose pas de questions. Par exemple, il trouve qu'un commandement, comme vous me disiez, mais comment se fait-il, ceci c'est compliqué, je ne comprends pas ça. Si le juif se met à discuter la valeur d'un commandement, c'est qu'il veut se prétendre plus intelligent que son créateur. Alors nous ne posons pas de questions. Dieu a dit, tu feras ça, tu la feras. Parce que nous n'avons pas la prétention d'être plus sages que notre créateur. Qu'est-ce que nous sommes? Lorsqu'on a mal à la tête, nous crions, oh mon Dieu, mon père, ma mère. Alors, que sommes-nous? Zéro.
La semaine dernière, Maurice Cohen, j'ai failli être excommunié à cause d'une espèce de petite interprétation ésotérique et à la sauce extraterrestre que je faisais.
Et moi, je parle d'une excommunication historique.
Oui, donc, d'accord. Ben, dis donc, tu veux te...
Alors, je vais vous parler d'excommunié.
Oui.
Au 16e siècle, au 17e siècle, en 1632, il y avait un grand homme, Galilée. C'est l'héritier de Copernic. C'est un physicien, un peu comme Einstein, mais pas Einstein d'aujourd'hui. Il disait que la Terre a tourné. La Terre tournait sur elle-même. C'est pas un crime. L'Église l'a excommunié. Non seulement il l'a excommunié, mais il l'a condamné à vie. Il a vécu dans une prison. Je crois qu'il est mort dans une prison.
Donc, il a fallu qu'il n'a pas été excommunié, mais il a été obligé de renoncer à sa théorie.
Ah, c'est ça, de dire
un ou l'autre.
Je me souviens, si mouri pour, il a dit quelque chose, un mot en italien.
Et pourtant, il tourne.
Et pourtant, il tourne.
Oui.
Alors, pourtant, il ne le pensait pas, puisque maintenant, nous avons la preuve que la Terre tourne sur elle-même. Mais vous me direz, mais comment se fait-il? On devait connaître que la Terre tournait, puisque 150 ans avant, Christophe Colomb avait découvert l'Amérique. Et c'est le principe que Christophe Colomb a utilisé pour découvrir l'Amérique, c'est que la Terre était ronde. Lui, il pensait que c'était une orange, parce que quand il parlait au ministre des Finances d'Espagne, il lui a dit, mais Excellence, la Terre est ronde. On se moquait de lui. Donc on le savait. Alors, 150 ans de différence, Rome ne savait pas que la Terre était ronde. Pourtant, les Espagnols avaient découvert l'Amérique. Maintenant, il y a autre chose. C'est que pourquoi l'Inquisition avait condamné Galilée? Ben, savez-vous pourquoi? Parce qu'ils ont mal traduit un mot hébreu. Un seul. Pas deux ni trois, un seul. Ben, si les juifs et les chrétiens étaient d'accord comme aujourd'hui, des amis, l'évêque qui a condamné aurait pu donner un coup de téléphone au rabbin de la ville en disant, voulez-vous m'expliquer ce mot? Il a plusieurs sens. Le rabbin lui dit, dans quel contexte, dans quelle phrase? Et il lui aurait dit la phrase, il dit, ça veut dire ça.
Vous pourriez nous reconstituer cette phrase?
Ah oui, non, la phrase, écoutez, je ne vous la dirai pas. Parce que le mot, je ne veux pas, c'est un secret.
Ah bon.
Il y a même des juifs qui ne le savent pas. Il y a même des juifs qui ne le savent pas. Mais peut-être que nous viendrons dans la discussion. Mais en tout cas, un seul mot hébraïque. Mais ceux qui m'écouteront et qui connaissent bien leur texte prophétique, ils doivent le savoir. C'est un verset de la Bible qui dit un seul mot. Ils l'ont mal traduit, l'Église l'a mal traduit. On a condamné cet homme qui était un grand scientifique qui pouvait rendre service énorme à l'humanité, il a été excommunié.
Est-ce que ça fait référence au passage où Josué était pris avec...
Ah non, c'est pas en ce temps-là, c'est juste au XVIIe siècle.
Non, je parle, non, le passage de la Bible fait-il référence au passage où Josué, pour gagner la guerre, demanda au Tout-Puissant de laisser
le soleil. Sans le vouloir, vous posez des questions intéressantes. Mais Josué, il a bien arrêté le soleil, mais c'est pas lui qui a arrêté le soleil. Je vais vous expliquer scientifiquement ce qui s'est passé. Scientifiquement, mais avec la volonté de Dieu. Sans la volonté. Josué a fait une prière. Le peuple d'Israël à l'époque, sa prière montait droit. Il n'y avait aucun obstacle qui l'arrêtait. Quand Moïse, ou Josué, ou Aaron, le grand prêtre, faisait une prière, ça arrivait sur le pupitre de l'Éternel Dieu, puis ça n'était pas jeté au panier. Immédiatement, la prière était exaucée. Quand Josué a fait la prière, il a demandé à Dieu de lui donner le temps d'exterminer ses ennemis, parce que les ennemis ne voulaient pas les chasser. Et Dieu a trouvé le moyen. Et Josué a dit, j'arrête le soleil. C'est une façon de parler, c'est allégorique. Mais savez-vous ce qui s'est passé? Dieu béni soit-il, a arrêté la vitesse rotative de la terre. Et je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Lorsque vous êtes dans une voiture et que vous roulez à 300 km à l'heure, si tout à coup vous voyez quelque chose venir et vous donnez un coup de frein pour revenir à 20 km, tous les passagers reçoivent un coup dans le front, tout le monde est blessé. Oui ou non, si on n'y avait pas la ceinture. Bon. Ben, ici, il est arrivé au monde comme ça. Beaucoup d'événements géologiques, beaucoup de phénomènes géologiques, par exemple les chutes du Niagara, les mammouths de Russie, qu'on a trouvés morts, qui sont encore jusqu'à maintenant conservés sous la neige, avec de l'herbe dans leur bouche. On voit que la mort était instantanée. La Terre s'est arrêtée de tourner à la vitesse, elle tourne à la vitesse de 44 000 km par jour, c'est-à-dire qu'elle tourne à une vitesse de 1600 km chaque heure, et tout à coup, elle s'est mise à tourner à la vitesse peut-être de 800 km à l'heure. Et alors, nous avons la preuve que l'événement s'est passé, parce que les Incas, le peuple Inca en Amérique du Sud, a eu une nuit excessivement longue, juste à cette époque-là. Dans les écrits des Incas, on a trouvé qu'il y a eu une nuit très longue chez les Incas. Vous savez, c'est des hémisphères. L'Amérique du Sud dans un hémisphère, la terre d'Israël au Moyen-Orient est dans un autre côté. Si vous avez une nuit longue, parce que vous savez comment que la nuit et le jour se font, le soleil nous tape. Si ce côté va là, celui-là à la nuit, l'autre à le jour, et ainsi de suite. Comme du côté d'Israël, du côté de la Palestine de l'époque et du Moyen-Orient, il y avait le jour qui était allongé, de l'autre côté de l'hémisphère, l'autre hémisphère, a eu une nuit excessivement longue. Voilà. Donc c'est même prouvé par les sciences, c'est même prouvé par les écrits, et c'est prouvé par des événements scientifiques géologiques. Parce que les géologues se demandent, comment se fait-il qu'il y ait eu les chutes du Niagara? Nous voyons les canyons, par exemple. Nous avons les mammouths dont je vous ai parlé. Il y a beaucoup d'autres phénomènes. On ne s'explique pas. On peut s'expliquer que par l'arrêt brusque de la vitesse rotative de la Terre.
Alors j'y vais sur mon excommunication avec une petite histoire qui débute avec une civilisation extrêmement évoluée, plus évoluée que la nôtre, qui observe un monde qui enfin pourrait abriter une forme de vie, une vie très semblable à la leur. Ils y mettent d'abord des végétaux et ils y accompagnent tout ça par des animaux. Des animaux et incluant un singe, un primate. Mais bonjour, voyant que la planète devient très habitable, ils y mettent une de leurs façons de se reproduire à eux. Ils recréent en laboratoire l'être qui est semblable à eux et qui pourra subsister dans ce monde. Et là, ces êtres évoluent sur la planète. Ils évoluent en parfaite condition physique parce qu'ils sont parfaitement protégés par eux en haut. Un bon jour, ils sont laissés libres et pour une raison ou une autre, ces gens touchent ce fameux arbre du fruit de la connaissance, ce fameux arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'on appelle l'arbre du Séphiroth, chez vous. Et ces êtres sont abandonnés à l'avenir à eux-mêmes en disant, c'est malheureux, vous avez osé profaner la construction du plan, maintenant vous allez vous débrouiller. On a pitié d'eux, de toute façon, on se dit un jour on viendra replacer les choses, on va les regarder évoluer lentement de loin. On voit des primates évoluer et devenir semblables à eux parce qu'il y a des mixages qui se font avec eux. Il y a de ces êtres qui descendent aussi et se marient avec des femmes de ces êtres qu'on avait préparés. Ce peuple qui avait été préparé par ces êtres extraterrestres, qu'on appelle le peuple juif, a eu des contacts avec d'autres et avec ses dieux, et protégé. Josué, lorsqu'il arrête le soleil, c'est un immense appareil qui, dans toute sa lumière, maintient le jour sur l'endroit de la bataille. Ils se protègent de la vue de tout le monde. Ils vont sur le haut des montagnes, comme le mont Horeb, ou ailleurs, où ils sont d'ailleurs, la maison de Dieu est en haut, et donnent leur volonté aux hommes, la loi, que les hommes doivent avoir. Vous voyez, là, je vais être définitivement excommunié encore une fois. Mais ce sont ça les interprétations qu'on peut faire
oui,
aujourd'hui.
C'est des interprétations auxquelles je ne donnerai pas beaucoup de crédit, moi personnellement.
Oui.
Étant instruit dans la loi de Dieu, très modestement, comme je le pense, je suis content de moi-même, je ne peux pas donner de crédit à ce que vous venez de dire, parce que je ne croirais pas ça. Maintenant, quant à vous, jusqu'à arriver à l'excommunication, là,
ouais.
je ne peux pas juger non plus. C'est quelque chose qui me dépasse.
Mais
ça, ce que vous dites là.
Que vous n'y croyez pas, est-ce que c'est parce qu'il y a quelque chose qui est irrationnel, qui n'a pas de bon sens ou est-ce
non,
que c'est
parce que... non, parce que tout ce que vous avez dit, il y a beaucoup de livres qui ont paru comme ça, parce qu'il y a un bonhomme qui dit qu'il a voyagé, puis qu'il a mangé avec les prophètes et tout, là. Je ne sais pas, je n'ai pas lu le livre, moi. J'ai entendu ça à la radio, ça m'a fait rire. Parce que je pense que ce n'est pas possible. Autrement, des mondes habités, il y en a. Personnellement, Maurice Cohen vous le dit. Attention, je n'implique pas les croyances du peuple d'Israël, là. Je m'implique personnellement. Il y a des mondes. Savez-vous pourquoi? Parce que dans nos prières, nous disons, en nous adressant à Dieu, nous disons, maître des mondes, le bon Aulamim. Il est maître de plusieurs mondes. Il y a des milliards et des milliards de mondes d'étoiles. Or, il peut facilement arriver que quelques centaines d'étoiles, quelques milliers même, possèdent des habitants et des êtres humains comme nous, peut-être plus perfectionnés que nous. Je vais vous donner un exemple. Dans cet Adamski-là, Georges Adamski, que je vous ai dit, le livre que j'ai lu, il avait parlé un jour des sondes, ils ont envoyé des sondes, vous savez, vers Mars, vers Vénus, vers Saturne, un peu partout. Puis la sonde disait, il n'y a pas d'habitants. Mais un jour, ils se sont amusés à envoyer des sondes sur les grandes villes de notre globe terrestre, comme Manhattan, Londres, Paris. Eh bien, vous ne devinerez jamais ce que la sonde a répondu, qu'il n'y a pas signe de vie. Ça prouve que les sondes donnaient de mauvais renseignements.
Ne sondent pas grand-chose.
Exactement. Et même les photos que font actuellement les Américains, les toutes dernières photos perfectionnées de l'électronique, c'est formidable ces photos-là. Mais on ne peut pas voir un être humain. Les êtres humains habitent dans des villes, dans des immeubles. Si vous allez à la campagne et que vous prenez la photo d'un champ, vous ne trouverez pas un être humain. Ou s'il y est, il doit être tellement minuscule que la photo ne peut pas le...
Mais Yahvé est très, très intolérant. Il est très, pas agressif dans le vrai sens du terme, mais il est très...
Dieu, très l'éternel Dieu, béni soit-il,
oui.
Est excessivement sévère.
Oui.
Vous savez, c'est lui qui a créé le monde. Vous n'étiez pas avec lui, ni vous ni moi. Nous n'avons pas le droit de venir comme associé lui dire, que fais-tu là? Il est seul. C'est lui qui a tout fondé. Vous savez, dans la discussion... dans le livre de Job, il y a une discussion qui s'entame entre Job qui est malade, je ne sais pas si vous l'avez le livre de Job, et puis les deux gens qui sont venus le voir parce qu'il était malade. Et puis Dieu béni soit-il les écouter. Alors Job qui était malade ne se plaignait pas, il ne se plaignait pas de l'injustice de Dieu, mais les deux disaient que ce n'était pas juste que la justice de Dieu soit si sévère. Et Dieu béni soit-il intervient dans la discussion. Et puis il dit aux deux, vous étiez avec moi pour placer les océans. Vous étiez là quand j'ai tout créé. Enfin, des arguments qui laissent l'homme à sa place, c'est-à-dire un insecte, un rien. En nous ne sommes rien pour pouvoir juger Dieu. Nous devons faire ce qu'il nous a commandé si nous voulons un jour mériter sa clémence et sa miséricorde. C'est ça. La voix du peuple d'Israël est celle-là. C'est qu'il faut qu'il écoute la voix de Dieu, là, qu'il suive sa loi, et c'est tout.
Merci Maurice Cohen encore une fois.
Je vous en prie.